Aujourd'hui, nous prendrons deux lectures dans le Nouveau Testament. La première, qui se situe dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 1 à 6. Allons-nous de nouveau nous recommander nous-mêmes? Ou bien avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous ou de votre part? Notre lettre, c'est vous, lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. De toute évidence, vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons grâce au Christ devant Dieu. Ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions mettre à notre compte. C'est de Dieu que vient notre capacité. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, nous lisons encore ces versets 19 à 22. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté, et en voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie ». Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Éternel, merci pour ta parole qui nous rejoint ici et maintenant, là où nous en sommes, avec ce que nous sommes. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, je vous invite à prendre maintenant le numéro 400, cantique numéro 400. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever.
Divin chef de ma voix.
Prenez place. Prions ensemble. Au commencement de l'Évangile, le Baptiste voit le souffle descendre sur l'homme Jésus. Après avoir traversé la mort, ce Jésus transmet à ses disciples le souffle reçu de son Père. Est-ce la fin de l'Évangile? La finale du texte, certainement. Mais depuis, le souffle poursuit sa course et se mêle à la parole des hommes. L'homme qui s'essouffle à courir sa vie, qui peine et bute sur l'obstacle, le souffle court, reprend souffle à la parole de l'Évangile. Il se redresse comme né d'un nouveau souffle et sa course s'apaise jusqu'à parvenir au but, devenir un avec le Père par son Fils devenu mon frère. Éternel, merci pour ce souffle. Amen. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Amis, frères et sœurs, ces mots écrits par l'apôtre Paul dans sa seconde lettre à l'église de Corinthe résonnent aujourd'hui à nos oreilles. Ils sont adressés à une église en difficulté, à une jeune église disparate qui cherche sa voie. L'apôtre Paul accompagne autant que faire se peut cette nouvelle communauté composée de membres différents et pluriels. Certains sont d'origine juive, d'autres d'origine grecque, d'autres viennent encore d'horizons plus lointains, car Corinthe, c'est un port, une ville cosmopolite. Alors par quoi toutes ces personnes sont-elles unies malgré leur diversité ? Elles adhèrent tant bien que mal à la parole de Jésus-Christ transmise par le témoignage de l'apôtre Paul et de son équipe missionnaire. Et lorsque Paul écrit ces mots, la lettre tue, mais l'esprit donne la vie, il sait de quoi il parle. Lui qui n'a pas connu Jésus, mais qui a tout de même fait sa rencontre d'une façon percutante sur le chemin de Damas. Lui qui, il y a quelque temps encore, partait en toute bonne conscience et en toute légitimité, attaché à la lettre de la loi de Moïse écrite sur les tables de pierre, persécutait les premiers chrétiens qui osaient suivre ce Jésus-Christ, considéré par ses contemporains comme un blasphémateur. Et il devient, contre toute attente, son témoin, et ce jusqu'au don de sa propre vie, maintenant que la loi du Christ est écrite dans son cœur. La compréhension que Paul fait du message du Christ dans ses lettres est différente de celle qui est dans les quatre évangiles. Comme l'écrit le pasteur Jean Dumas dans son dernier livre, « La parole et le souffle », je cite, « La foi de Paul naît d'une révélation foudroyante qu'il fit de la véracité d'un Jésus qu'il n'avait pas connu mais qui s'impose à lui définitivement. » Quand Paul écrit ses lettres, les quatre évangiles tels que nous les connaissons ne sont pas encore rédigés. Ces quatre évangiles se ressemblent tout en ayant chacun leur particularité. Chaque rédacteur de l'évangile ajoute sa petite note personnelle. Et sur les quatre, un évangile se démarque plus particulièrement. L'évangile de Jean présente Jésus de Nazareth sous un tout autre angle qui lui semble plus proche des attentes de ses contemporains, ceux de la troisième génération après la mort de Jésus. Et c'est ainsi que nous recevons le quatrième évangile, celui de Jean. Mais au fond, cela rejoint la rédaction des premiers récits bibliques, le Premier Testament. Les sciences bibliques, dont l'exégèse historico-critique, nous apprennent quantité de détails sur la rédaction des livres du Premier Testament. Les pensées religieuses évoluent. Les notions de Dieu, autrement dit, les théologies, varient d'une époque à l'autre, d'un livre à l'autre. Et nous sommes témoins d'une grande variété d'expressions de la foi du peuple hébreu. Nous sommes aussi devant une souplesse d'interprétation. La pluralité est donc une réalité du texte biblique. Dans une autre lettre qu'il adresse aux Galates cette fois-ci, Paul dit que chacun est appelé à la liberté. Nous aimons bien être appelés à la liberté, car cela nous renvoie au message libérateur du Christ. En effet, les évangiles sont ponctués des actes et des paroles de Jésus qui proclament sa propre foi en un Dieu qui rompt les équilibres mortifères, qui déjoue toutes les fatalités qui enferment l'être humain. De cette façon, Jésus irradie la présence de Dieu et sa prédication bouleverse encore et bouleversera encore et toujours, libérant en chacun et chacune de nous une énergie créatrice qui fait de nous des passeurs de la liberté. Mais en même temps, l'apôtre Paul dit que cette liberté qui nous est offerte ne doit pas être utilisée à mauvais escient. Et lorsque nous entendons appeler à la liberté, nous comprenons qu'il n'y a plus cette nécessité de vivre sous la loi de Moïse de manière légaliste, mais que chacun, chacune aura la liberté, mais aussi la responsabilité, deux mots qui sont chers à notre protestantisme, d'interpréter la loi de Moïse en fonction de chaque situation qu'il ou elle rencontrera. Et ce sera cela notre liberté, cette liberté. Vivre la loi non plus à la lettre, mais dans l'esprit, pour reprendre les mots de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Avec le Nouveau Testament, nous apprenons que nous ne sommes plus sous le règne de la loi, mais sous celui de la grâce. Mais vivre selon la grâce de Dieu n'est pas un blanc-seing pour justifier des pensées telles que Je peux faire tout ce qui me plaît, et puisqu'il n'y a plus de contraintes, alors je peux suivre mes sentiments, mes penchants, mes désirs, quels qu'ils soient, là où ils me conduiront. Et c'est là que la parole de l'apôtre Paul me met chacun en garde. Le seul exemple à suivre, c'est celui du Christ, qui n'a de cesse de rappeler sous toutes ses formes que notre seul devoir, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et à cause de cet amour du prochain, alors nous ne pouvons jamais faire n'importe quoi vis-à-vis de l'autre, en particulier tout ce qui pourrait lui faire du mal, ou le spolier, ou le dégrader, ou le réduire à une marchandise, ou encore le tuer. Et Paul dira, encore dans une autre lettre destinée cette fois-ci aux Philippiens, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. » C'est bien à ce service que nous sommes appelés service et non servitude. Pourtant, force est de constater que l'histoire des hommes, comme celle de l'Église, est ponctuée d'épisodes sanglants qui rappellent combien la parole, prise en otage, a servi de prétexte pour tuer. Cela advient sans doute quand certains lecteurs de la Bible se sentent pris de vertige par toute lecture plurielle et se laissent glisser vers un tel respect du texte qu'ils en refusent toute discussion. Pour eux, le véritable auteur de ces textes est Dieu lui-même, pour d'autres ce sera le Saint-Esprit, et il ne faut rien changer aux lettres du texte, en concluant qu'il faut en rester à l'application la plus stricte des paroles bibliques. On les appelle fondamentalistes, mais c'est à tort, comme le souligne le pasteur Jean Dumas, parce que tout chrétien conséquent se réclame aussi du fondement de sa foi à partir du texte. Il vaudrait mieux les définir comme étant des littéralistes. Et si dans la foi qui est la nôtre, nous suivons plus particulièrement un homme, à savoir Jésus de Nazareth, nous n'adhérons pas à une idéologie, ni même à une idole. Nous ne tentons pas de le suivre à la lettre, ce qui serait totalement impossible, mais nous essayons d'être en communion avec son esprit. Et être dans cette communion, c'est rejoindre l'esprit dans lequel cet homme, Jésus de Nazareth, a travaillé. Il y a donc des compréhensions diverses et variées du message biblique. Et à chacun, chacune de nous, de les interpréter en rapport à la vie qui est la nôtre actuellement. Au fond, c'est ce que Jésus a fait pendant son ministère en Galilée. Il a toujours mis en garde ses contemporains contre une lecture littérale des Écritures. Et Jésus a interprété les Écritures qu'il connaissait selon sa propre foi en Dieu, à laquelle il a obéi jusqu'au bout, sans renier l'ouverture de l'interprétation qu'il a faite des Écritures, se mettant d'ailleurs à dos les gardiens de la loi. Chaque fois que la situation posait un problème de compréhension, Jésus a fait appel au souffle pour vivifier la lettre. Il a fait appel à la respiration intérieure pour que la prière soit celle du cœur et non celle d'une répétition rituelle. Il a fait appel à l'esprit qui rend la loi plus juste en l'adaptant. Et aussi ce qui rend le principe moral acceptable en atténuant sa rigidité. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons comprendre ces paroles de l'apôtre Paul comme un élan que donne le souffle, l'esprit. Alors, fort de ce souffle, il est évidemment difficile de définir ce qu'est un chrétien. Sinon, pour reprendre les mots de Raphaël Picon dans son éditorial d'avril 2009 dans Évangile et Liberté, je cite « Être chrétien, c'est être libre, inspiré par l'Évangile du Christ, celui de l'insurrection, de la vie contre la mort, de la libération contre toutes les aliénations, qu'elles soient religieuses, politiques, économiques, culturelles. Cette liberté naît de se savoir reconnu et autorisé dans l'existence. Tel que je suis, humainement, et tel que je suis avec Dieu. C'est-à-dire continuellement recréé par lui, attiré par lui vers une existence plus épanouie et en lutte pour un monde plus accompli. Être chrétien, c'est forcément associer l'Évangile à la liberté. Un Évangile sans liberté serait une loi tyrannique. Une liberté sans Évangile risquerait d'être sans amour. Ce christianisme préfère les questions ouvertes, celles qui rappellent que la vérité est toujours objet de recherche, de préférence aux réponses définitives qui contrarient la pensée. Ce christianisme-là n'a de cesse de rappeler que le Christ est l'utopie réalisée d'un être nouveau, libre et aimé. » Fin de citation. C'est ainsi que nous avons entendu l'extrait de l'Évangile de Jean tout à l'heure, en parallèle de la lettre de Paul. Les disciples ont fait leur rencontre avec le Christ vivant. Quand Jésus revient au milieu d'eux, c'était pour continuer ce qu'il avait commencé avec eux avant. Sa présence à leur côté est pour leur dire que maintenant, il va falloir aller plus loin et sans lui. Parce qu'à partir de maintenant, plus rien ne peut arrêter Jésus de leur donner son souffle, ni les remords, ni la lâcheté, ni la honte, ni la culpabilité, ni la trahison, ni le reniement, ni la peur de ses disciples, ni même les verrous des portes. Au fond, rien ne peut l'empêcher de continuer ce pourquoi il est venu, apporter encore et toujours la paix, le pardon et la lumière dans toutes les nuits des hommes. La réconciliation de ce qui peut séparer. Et par-dessus tout, la vie, sa vie. Qu'il donne et qu'il continue de donner comme un fleuve d'eau vive. Pour que tous aient sa vie en abondance. Sa vie est plus forte que n'importe quelle mort, n'importe quel enfermement, n'importe quelle rupture. Et c'est cela que ce récit raconte. L'Écriture se réalise dans le récit de l'Évangile de Jean, la parole s'accomplit. Et Jésus, au milieu de ses disciples, n'est pas là pour leur faire des reproches ou les punir. Peut-être qu'ils y ont pensé un instant, coincés qu'ils étaient dans une notion ancienne d'un Dieu qui châtie. Mais là, ils sont en présence d'une grande nouveauté. En les saluant avec cette parole de paix, Jésus les touche exactement là où ils en ont besoin. Ce shalom, qui est la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, dira plus tard l'apôtre Paul, fait son passage sur les disciples. C'est bien leur Pâque à eux. Et cette paix passe au-dessus des fautes, des culpabilités, des formes de condamnation. D'ailleurs, l'évangéliste Jean écrira plus tard dans une de ses lettres, « Là où notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. » Alors Jésus souffle sur ses disciples. Il descend en eux, il dépose en eux son souffle nouveau. Il dépose son esprit, le paraclet, mais aussi le consolateur. Il souffle sur eux pour les transformer, les pacifier de l'intérieur et pour les rendre disponibles à un avenir nouveau. Il est en train de faire d'eux des hommes nouveaux. Ce souffle rappelle le souffle de Dieu dans les narines d'Adam et Ève pour qu'ils prennent vie. Ici, c'est bien d'une vie nouvelle qu'il s'agit, qui ouvre sur un avenir et une espérance. Et cet avenir et cette espérance viennent jusqu'à nous aujourd'hui. Jésus avait promis qu'il n'abandonnerait pas ses disciples. Il tient sa promesse en venant au milieu d'eux. Avec ce souffle, il fait d'eux des apôtres, autrement dit des envoyés, des personnes envoyées ailleurs pour continuer la mission. Ce souffle sur eux sera leur nouvelle force, leur nouveau moteur. Il leur donnera un élan dont nous sommes aujourd'hui les bénéficiaires, que nous aussi nous sommes appelés à transmettre. Cette transmission se fait bien au-delà du texte, un texte que d'ailleurs Jésus n'a jamais écrit et qui est passé à la postérité par le canal de la foi d'une part et de l'interprétation d'autre part, des disciples devenus apôtres et témoins de leur temps. Eux-mêmes ont été d'abord au bénéfice de ce souffle qui leur a donné la vie. Et pour que cette vie spirituelle arrive jusqu'à nous, c'est qu'ils ont eu le courage et l'audace de s'éloigner de la lettre du texte qui aurait fini par les tuer tous. Mais c'est bien à la vie que le Dieu de Jésus-Christ nous appelle. Amen.